Sympa de retrouver quelques personnes qu'on ne connaît pas, et c'est encore plus sympa de retrouver certaines personnes que je ne connaissais pas encore. C'est toujours précieux de voir qu'on a des frères et sœurs en plus que ce qu'on pensait. Et puis content de voir que l'Église change, que l'Église avance et bouge. Alors, il faudrait juste que je corrige un tout petit peu quelque chose que j'en vois à Liaron. Désolé, hein, ça ne se fait pas, mais c'est en principe pas des Suisses qui ont mis des versets bibliques en haut des montagnes. Non. Si vous allez dans des pays germanophones, donc l'Autriche, la Suisse allemande ou l'Allemagne, vous allez souvent trouver sur les sommets des plaques avec des versets bibliques. Et elles ont la plupart été mises en place par les sœurs de Darmstadt, je ne sais pas si vous les connaissez. Elles sont très proches des sœurs du Horodberg, qui ne sont pas très loin d'ici. Hein. Ce sont les sœurs protestantes luthériennes qui, alors elles ont commencé ça, je pense, dans les années 30, puis elles ont continué assez longtemps. C'était la grande période où on parlait beaucoup d'évolution et tout ça et de hasard, et elles ont dit non, il faut qu'on rende l'honneur au Créateur. Donc elles ont cherché tous les endroits où il y avait un beau point de vue, et elles ont mis une plaque avec un verset biblique. Alors imaginez ces sœurs qui, certaines, étaient pas mal âgées, qui ont grimpé avec du ciment et tout ça pour aller installer ces plaques un peu partout. Mais moi, ça m'a toujours fait réfléchir en disant, je sais que c'est Dieu qui a tout créé. Et quand je vois quelque chose de beau, bon, d'abord, est-ce que spontanément j'en fais une louange? Et comment est-ce que je peux aider les gens autour de moi à en faire aussi une louange? Il y a plein de beaux coins partout, parfois simplement les fleurs de notre jardin, parfois nous-mêmes. Ouais. Comment est-ce que je peux en faire un sujet de louange pour moi et pour d'autres? Alors, ce n'était pas du tout le sujet de mon prédication ce matin. Hein. Bon. Ce matin, je vous propose de prêcher sur le début de l'épître aux Philippiens. J'ai l'habitude de faire des séries de prédications. Alors, ma dernière prédication à Chartres, c'était le début d'une nouvelle série sur Philippiens. Alors, c'est des prédications toujours un peu bizarres, parce qu'on va un tout petit peu parler du texte biblique d'aujourd'hui, qui est 1 Philippiens 1, 1 à 11, et un petit peu parler du contexte général de l'épître aux Philippiens. Alors, vous n'aurez pas forcément la suite, sauf si Jean-Haut a prévu de partager là-dessus, ou si vous allez sur Facebook lire les méditations qu'on poste avec notre Église sur Philippiens aussi. Mais donc, on va plutôt parler d'éléments un peu généraux sur l'Épître aux Philippiens, un peu histoire de vous aider à, quelque part, lire l'Épître aux Philippiens par vous-même et d'aller peut-être un petit peu plus loin que ce qu'on aurait trouvé par nous-mêmes. Alors, bon, on va donc parler un petit peu du contexte de l'Église, de l'église de Philippe de l'époque, les circonstances de cette lettre, mais aussi comment cette église a été fondée, parce que bien sûr, si Paul écrit à cette église de cette manière, c'est parce qu'il y a toute une histoire dans cette église, et puis entre Paul et cette église. Je trouve aussi que c'est précieux de voir comment Paul se présente et comment il parle des chrétiens. Je trouve que ça nous apprend à nous voir nous-mêmes de manière plus juste. Et puis, le texte se termine par un appel à prier, mais on le fera juste courtement à la fin. Voilà. Mais j'aimerais vous inviter d'abord à ouvrir vos Bibles, et puis on va lire Philippiens 1, les 11 premiers versets. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, saluent tous ceux qui, par leur union à Jésus-Christ, sont membres du peuple saint et qui vivent à Philippe, ainsi que les dirigeants de l'Église et les diacres. Que la grâce et la paix vous soit accordé par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous tous en toute occasion, et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu pour votre solidarité qui, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, a contribué à l'annonce de l'Évangile. Et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Tels sont mes sentiments envers vous tous, et il est juste que je les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde, aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule que lorsque je défends l'Évangile et que je l'établis fermement. Oui, Dieu m'en est témoin, je vous aime tous, de l'affection que vous porte Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de Christ, où vous paraîtrez devant lui chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous à la gloire et à la louange de Dieu. Voilà. Bon. Alors, quelques rappels un peu du contexte. On est probablement autour de 63 avant Jésus-Christ, ça ne nous rajeunit pas. Paul est en prison, il parle de sa cellule. Alors, sans doute, il est à Rome, vous voyez qu'il ne précise pas où il est. Les Philippes avaient 63 après Jésus-Christ, bien sûr, j'ai dit avant Jésus-Christ. Heureusement que ma femme est là. Hein. 63 après Jésus-Christ, Paul est en prison. On pense qu'il est à Rome, c'est le passage qui est raconté dans Acte 28, la fin de Acte. Alors, d'autres pensent qu'il est à Césarée, c'est en Israël, ou qu'il est à Éphèse. Bon, dans tous les cas, il est en prison et il attend son procès, et il ne sait pas trop quelle sera l'issue du procès. Il peut être libéré ou il peut être exécuté. À l'époque, c'était un petit peu les deux sentences, quoi. En tout cas, il espère être libéré et pouvoir retourner dans les églises qu'il a fondées, notamment à Éphèse ou à Philippe. Bon. Paul écrit à l'occasion du passage d'Épaphrodite. Épaphrodite, c'est, on va dire aujourd'hui, un missionnaire. Il est envoyé par l'église de Philippe pour apporter des dons, donc de l'argent, pour que Paul puisse vivre, mais aussi pour se mettre au service de Paul. Mais il est tombé gravement malade et Paul doit le renvoyer à Philippe. Vous voyez déjà la difficulté. Les Philippiens ont fait beaucoup d'efforts pour envoyer Épaphrodite et Épaphrodite revient. Bon. Épaphrodite va aussi donner des nouvelles de l'église de Philippe et Paul va essayer de répondre à ces nouvelles qui sont là. Et en fait, la préoccupation de Paul dans toute l'épître aux Philippiens, c'est d'encourager les chrétiens. Ils vivent des situations relativement difficiles. Il y a de la persécution, mais il y a aussi pas mal de conflits à l'intérieur de cette église de Philippe. Et en plus, il y a l'emprisonnement de Paul, qui est aussi une source de découragement. Imaginez ça, leur ami est en prison, le fondateur de leur église est en prison, ça dure depuis 3 ans. Ouais. C'est déjà difficile quand vous avez des amis en prison, mais en plus quand ça dure, vous savez ça avec le Covid, hein, plus la situation dure, plus ça nous use. Paul va essayer de prendre ces situations et il va les tourner pour montrer que c'est une source d'encouragement si on les regarde avec les yeux du Seigneur. Alors, encore quelques mots sur l'histoire de l'église de Philippe. Alors, bon, peut-être dire 2-3 mots sur la ville de Philippe parce que c'est important pour la suite de l'épître. La ville de Philippe, c'est en Macédoine, donc en Grèce aujourd'hui, c'est tout près du Bosphore. Le roi Philippe, le père d'Alexandre le Grand, vous connaissez sans doute tous Alexandre le Grand, a transformé une petite ville, c'était à l'époque une toute petite ville, et on a fait une vraie ville, voilà, et lui a donné son nom, en l'occurrence. Ensuite, la ville est devenue une garnison romaine, ça c'est au moins 40, cette fois-ci, avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et ça explique une grande partie des difficultés de cette église. Dans cette ville, il y a beaucoup de soldats romains, il y a beaucoup de vétérans romains, et il y a aussi pas mal de gens d'Italie, parce qu'un des empereurs, l'empereur Auguste, a eu la bonne idée de prendre des terres autour de Rome pour mettre ses plus fidèles serviteurs, et il a envoyé ces gens-là à Philippe, justement. Donc dans cette ville de Philippe, il y a plein de Romains. Et ces Romains, ils n'aiment pas trop les religions nouvelles. En particulier, les religions qui viennent d'Israël, puisqu'à l'époque, Israël est quand même en conflit assez ouvert avec l'Empire romain. C'est d'ailleurs pas pour rien que dans l'histoire qu'on nous raconte dans le livre des Actes, Paul et Silas ont tout de suite des problèmes à Philippe, alors que dans l'équipe missionnaire, il y a aussi Luc et Timothée qui viennent de Turquie, qui eux n'ont pas de problème. Être juif à Philippe à cette période, c'est pas une très bonne idée. Et à l'époque, le christianisme est vu comme une espèce de dissidence de la foi juive. L'implantation d'église est menée par toute une équipe autour de 50 après Jésus-Christ. Alors on mentionne surtout Paul, Luc, Silas et Timothée. On nous raconte ça dans Acte 16. D'ailleurs aujourd'hui encore, hein, quand on implante les églises, on implante toujours en équipe parce que finalement, une grande partie de l'évangile, on le montre par les relations entre nous. Vous l'avez déjà vu, hein, quand on annonce l'évangile à quelqu'un, moi tout seul, on a beaucoup moins d'impact que quand il voit comment les chrétiens sont entre eux. Ouais. C'est là où, malheureusement, l'épidémie de Covid ne nous a pas beaucoup aidés, hein. Voilà. Mais c'est pour ça que la plupart du temps, on essaye d'avoir des équipes pour implanter des églises. Alors, là, l'équipe missionnaire va implanter cette église et assez rapidement, Paul et Silas vont être emprisonnés, puis expulsés de la ville. Vous voyez, le début de la communauté, ce n'est pas très facile. Alors Luc, celui qui a écrit l'évangile de Luc et le livre des Actes, va rester plusieurs mois, peut-être plusieurs années, on ne sait pas exactement, dans cette ville, et c'est lui qui va être vraiment le, on va dire, le premier pasteur de cette église de Philippe. Et on mentionne que Paul et son équipe vont revenir régulièrement faire des visites. Dans le livre des Actes, on en mentionne deux, et dans Timothée, on en mentionne, dans la première à Timothée, on en mentionne une troisième. Bon. Alors, quelques mots encore sur l'emprisonnement de Paul et Silas au tout début de cette église de Philippe. Parce que c'est important pour comprendre pourquoi Paul insiste tellement sur son emprisonnement dans cette épître. Au début de l'église de Philippe, Paul et Silas vont être mis en prison, ils vont être d'ailleurs frappés et ensuite enchaînés dans la prison. Et quand ils sont dans la prison, ils se mettent à chanter des cantiques et à ce moment-là, il y a un tremblement de terre et tous les prisonniers sont libérés. Suite à ça, le geôlier, donc le directeur de la prison, aujourd'hui, se convertit. Dans la suite, le lendemain, Paul fait connaître son passeport romain, le gouverneur lui présente des excuses, mais lui demande quand même de partir parce qu'il a peur des émeutes dans sa ville. Pourquoi c'est important? Parce que, en fait, ça veut dire que dans l'église de Philippe, dès le départ, il y a un geôlier, probablement un vétéran de l'armée romaine. Vous voyez comme ça va être important pour que cette église ait un peu droit de cité ici. Ouais. Donc vous comprenez bien l'idée de l'apôtre Paul. Bien sûr, on aurait préféré que Paul n'aille pas en prison. Mais le fait qu'il aille en prison a été une vraie chance pour cette église de Philippe. Une vraie chance pour pouvoir s'implanter. Vous voyez un peu l'idée de l'apôtre Paul. Des choses que l'on perçoit, nous, parfois, comme un malheur, une difficulté, sont parfois une grande bénédiction de la part du Seigneur. Alors, avant d'aller plus loin, j'avais envie de vous lancer deux thèmes de réflexion. Je ne sais pas quelles sont vos circonstances, mais la question c'est comment vous allez faire de vos circonstances une source d'encouragement pour les frères et sœurs dans la foi. Comment vous utilisez vos circonstances? Paul parle ici de situations assez positives, la joie d'avoir des amis, de recevoir des nouvelles, la joie de la prière réciproque, la joie d'avoir reçu des cadeaux de la part de Philippe, mais il parle aussi de situations plus difficiles, la maladie, notamment la maladie d'Épaphrodite, la prison, le fait qu'il reçoit des mauvaises nouvelles de la ville de Philippe, mais il prend tout ça et il en fait une source d'encouragement pour les autres. Ouais. Vous voyez, ça c'est d'ailleurs assez étonnant, hein? Même la maladie est une source d'encouragement. Parfois on a tendance que c'est la penser que c'est la guérison qui est source d'encouragement. Dans cet épître, c'est la maladie d'Épaphrodite qui est une source d'encouragement. Ouais. Comment vous utilisez vos circonstances pour en faire une source d'encouragement pour vous, parce qu'on voit la présence du Seigneur, mais aussi pour les autres. Par exemple, ici l'apôtre Paul va simplement dire il est en prison, mais la prison n'arrête pas l'évangile. C'est la preuve que l'évangile, ça marche, quoi. Je ne sais pas comment dire ça. Ça, je vous dirai les Suisses. Vous voyez, c'est une manière de transformer les choses. Même l'Empire romain n'arrête pas l'évangile. Une deuxième remarque. Il y a une vraie difficulté pour cette église de Philippe parce que Paul est en prison. Et donc, c'est une certaine honte, quand même. Qu'est-ce que je fais de ça? Et il me semble qu'on doit réaliser ça, que quelque part notre vie, j'allais dire notre réputation, mais quelque part notre vie a un impact sur ceux qui sont autour de nous. On ne le remarque pas forcément, on est souvent très individualiste, hein, mais notre vie à chacun a un impact sur tous ceux qui vous entourent. Ouais. C'est souvent quand il y a un divorce que les gens s'en rendent compte. Ouais. Où on découvre brusquement, douloureusement, que nos choix de vie ont un vrai impact, pas seulement sur moi, mais sur tous ceux qui sont autour de moi, sur toute mon Église. Ouais. Ça signifie aussi, plus positivement, que notre foi, notre persévérance dans la foi, va avoir aussi un impact autour de nous. Ouais. De nouveau, là, on ne le voit pas toujours au premier abord, hein, mais c'est une réalité. comment allez-vous utiliser votre vie pour rendre fiers vos frères et sœurs? Dans un roman que j'aime beaucoup, alors je l'ai lu quand j'étais au GBU, vous voyez ça. Bon. C'est un roman d'Adrian Place, je ne sais pas qui connaît cet auteur, Adrian Place. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Journal de bord d'un chrétien chaotique ». C'est une sorte d'autobiographie inventée, on va dire. Hein. Et il imagine qu'au travail, quelqu'un vient le taquiner. Et il lui dit « Écoute, hier soir j'étais au bar, et puis j'ai rencontré un tel, il était complètement ivre, il était couché par terre, il me semble que c'est quelqu'un de ton église. » Ouais, vous voyez un peu, hein, nos choix de vie ont un certain impact. Et la réponse d'Adrien est intéressante, je trouve. Il dit, en effet, c'est un de mes amis, et il est dans mon église, et il a un problème d'alcool. Notre église est aussi un lieu d'accueil pour des gens imparfaits qu'on essaie d'accompagner. Ouais. Je trouve intéressant comme réponse. Notre vie a un impact sur les autres. Maintenant, comment est-ce qu'on va le tourner pour montrer la beauté de ce que Jésus-Christ fait dans nos vies? Paul est en prison, ça a naturellement un impact négatif sur l'église de Philippe. Le découragement, la méfiance des autorités. Mais Paul va retourner cette situation pour en faire un encouragement pour les chrétiens de Philippe. L'évangile avance malgré tout, et parfois grâce à l'emprisonnement de Paul. Paul le mentionne ici, beaucoup de personnes qui sont membres du prétoire. Le prétoire, c'est un peu la garde rapprochée de l'empereur, hein, ont entendu l'évangile, mais parce que Paul est en prison. S'il n'avait pas été mis en prison, il n'aurait pas pu annoncer l'évangile à ces gens-là. Vous voyez, comment il va utiliser les circonstances pour montrer, mais Dieu est là, Dieu en fait quelque chose. Et c'est une source d'encouragement. Deuxième partie de ma prédication, j'aimerais juste parler de la manière dont Paul se présente lui-même. Il commence ainsi, « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, saluent tous ceux qui, par leur union à Jésus-Christ, sont membres du peuple saint et qui vivent à Philippe, ainsi que les dirigeants de l'Église et les diacres. » Paul se présente ici comme un esclave du Christ. En grec, c'est vraiment le mot « esclave » qu'il utilise ici. Et il parle des chrétiens comme des membres du peuple saint. En reprenant ici une manière habituelle, de parler du peuple juif, en fait, de parler du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Alors, je crois que je vous ai mis quelques versets. Donc, voilà, vous avez quelques versets ici de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Un premier verset dans Exode 19. Vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens et comment je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. Maintenant, si vous m'obéissez, et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Oui, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. C'est un peu le texte qui est en arrière-plan de la présentation de l'apôtre Paul. Et voilà, le verset suivant, c'est dans 1 Pierre. Vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Et je vous ai mis deux autres versets encore sur la route. Pour la route, dans Tite, il s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Et dans Apocalypse, il nous a aimés, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. Ouais. Quand l'apôtre Paul mentionne que les chrétiens de Philippe sont des membres du peuple saint, alors il mentionne d'abord que même si le peuple saint est dispersé, c'est un seul peuple. Lui, il est à Rome, eux, ils sont à Philippe, d'autres sont encore ailleurs, mais c'est un seul peuple. Mais surtout, il leur rappelle quelle est leur mission. Être un peuple de rois prêtres destinés à porter les louanges du Seigneur. Ouais. J'aime cette insistance dans tout ce passage sur le fait d'appartenir à Jésus-Christ. Même le mot saint, c'est un peu ça. Hein. Être saint, c'est être mis à part pour appartenir à Dieu ou à un Dieu. Quand on pense à un esclave, on pense souvent plutôt à l'idée de service, parfois à l'idée de violence aussi. Hein. Mais en fait, le premier élément, c'est l'idée d'appartenir à quelqu'un. Un esclave, avant tout, c'est quelqu'un qui appartient à son maître et qui souvent n'a même plus d'identité propre. Il est juste quelqu'un qui est attaché à son maître. Ouais. Dans les Antilles notamment, c'était une habitude de donner comme nom de famille aux esclaves le prénom du maître. Enfin, si vous connaissez les Antillais, ils ont souvent des noms de famille qui sont en prénom parce que c'est le prénom de leur maître. Une manière de leur dire qu'ils n'ont plus vraiment de famille, plus vraiment d'origine. La seule chose qu'ils ont, c'est qu'ils appartiennent à leur maître. Ouais. Alors, ce n'est pas forcément une bonne, un bon souvenir de dire ça. Hein. Mais quand même, j'aime cette idée. La première chose à dire, nous appartenons au Seigneur. C'est ça le plus important. Alors, c'est évidemment différent pour nous, parce que quand on appartient à Dieu, ce n'est pas notre identité qui disparaît. Ouais. C'est plutôt que le fait d'appartenir à Christ est beaucoup plus haut, beaucoup plus important. C'est ce que Paul développe notamment dans Philippiens 3. Hein. Oui, notre identité, c'est précieux. Mais appartenir à Christ, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup mieux. Ouais. Évidemment, les maîtres des esclaves, c'était différent. Ils pensaient que les esclaves valaient rien. C'est pour ça que leur identité est niée. Pour nous, ce n'est pas ça. C'est juste qu'on nous donne une identité bien plus importante. Et cette identité, c'est « j'appartiens au Seigneur ». Paul salue tous les membres de l'Église, il salue aussi ses responsables. Alors, dans la version du sommaire, on parle des dirigeants de l'Église et des diacres. Littéralement, on parle des surveillants et des serviteurs. C'est encore des serviteurs. Ouais. Des serviteurs qui ont une tâche particulière dans l'Église, mais c'est encore des serviteurs. Bon, les mots grecs ont donné en français les mots évêque et diacre. Ouais. Littéralement, c'est ça. Mais en grec, à l'origine, c'est simplement des serviteurs. Avant tout, ce sont des serviteurs du Christ pour conduire l'Église du Christ. Un peu comme un berger guide les moutons qui ne sont pas à lui, ou comme une nounou s'occupe d'un bébé, et elle sait bien qu'elle n'est pas la maman, quoi. Vous voyez ? On est les serviteurs de l'Église du Christ. Alors, Paul les mentionne ici parce qu'il va dans la suite leur demander des missions particulières, mais voyez, la première chose qu'il leur rappelle, vous êtes des serviteurs du Seigneur dans cette église où tout le monde appartient au Seigneur. Et c'est ça le plus important. Alors, je crois que vous avez mis une image avec une blague prise sur Internet. Vous voyez ici ce que c'est ? C'est un départ d'une course de lévrier. Et dans le box, il y a aussi un guépard. Et comme vous voyez, le guépard ne part pas. Et le commentaire sur Internet, je trouvais intéressant, c'était « Bon, le guépard, il court quand il a faim. » Il n'a pas besoin de courir pour prouver qu'il court plus vite que les autres. Hein ? Je trouvais bien cette idée-là. Avant tout, nous sommes les serviteurs du Seigneur. On n'a rien à prouver. On a à faire notre boulot de serviteur du Seigneur. On n'a pas à courir pour être plus rapide que les autres, pour être un peu plus chef que... Voilà, mais on se réjouit d'être le serviteur du Seigneur et nous avons un boulot à faire. Troisième partie, plus courtement... Quelques éléments sur la prière, parce que Paul nous donne ici des modèles de prière. Alors, c'est courant dans la Bible, hein, on a plein de modèles de prière pour nous apprendre à prier. Et voici ce que dit Paul. « J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous tous en toute occasion, et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu pour votre solidarité qui, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, a contribué à l'annonce de l'Évangile. Et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. » Je ne sais pas comment vous priez, mais je trouve intéressant cette prière de l'apôtre Paul. Bon, d'abord il prie, ça c'est quand même déjà une première leçon. Et ensuite, il prie d'abord pour dire sa reconnaissance et sa joie. Ouais. Il dit, chaque fois qu'il pense à ces chrétiens de Philippe, il prie avec reconnaissance et joie. Vous voyez qu'il précise qu'il prie pour vous tous. Pourquoi pour vous tous ? Parce que c'est une église en conflit. Et quand il y a un conflit dans une église, on pense toujours que Paul est plutôt de mon côté plutôt que celui de l'autre. Quoi, voyez ? Non, il se réjouit de tous. de tous ceux qui sont dans cette église. Et il prie avant tout pour qu'ils reçoivent la grâce et la paix, et il prie aussi dans la certitude que Dieu agit dans leur vie, que ce qu'il a commencé, il va le rendre parfait. Vous voyez, il aurait pu aussi râler, ressasser. Les gens de Philippe en ont aussi fait voir à Paul, hein, faut quand même dire les choses, hein. Mais avant tout, il prie avec reconnaissance et joie. Ça, c'est notre premier appel. Prier avec reconnaissance. Non pas prier pour que Dieu change les autres, non pas faire de notre prière une sorte de manière de se plaindre à Dieu de ce que les autres font, tout ça, de leurs défauts, bon, qu'ils soient vrais ou pas. Non pas prier aussi pour nos frustrations ou nos inquiétudes, voire pour nos envies, mais avant tout dire notre reconnaissance et notre joie. Notre reconnaissance, notre joie et notre confiance que Dieu agit dans la vie des autres. Ouais. Pensez à vos enfants, à vos conjoints, à vos parents, à votre voisin, à votre patron, à vos collègues, au chauffeur de bus, à l'agent des impôts peut-être, ou au boulanger du coin. Comment est-ce que vous priez pour lui ? Dans la suite, à partir du verset 9, Paul précise 2-3 éléments en plus. Il prie pour les Philippiens pour qu'ils apprennent à aimer et à aimer mieux. Et il prie pour leur perfection, pour leur sainteté, pour leur sanctification. Priez avec reconnaissance et joie chaque fois qu'on prie pour quelqu'un. Voilà, je vous invite simplement à terminer en priant. Ouais, je crois que vous l'avez tout ça ici. Seigneur Jésus, je te prie de venir renouveler notre regard sur nos circonstances, notre regard sur les gens qui nous entourent, parce qu'il y a une certitude, tu es à l'œuvre. Nous avons parfois un problème parce qu'on ne te voit pas à l'œuvre, mais tu es à l'œuvre. Aide-nous Jésus à nous réjouir pour tout ce qu'on voit, puis nous réjouir pour ce qu'on ne voit pas, mais parce qu'on sait que tu agis, on sait que tu es là. Viens, Seigneur, continue à changer notre regard. Viens nous apprendre à nous réjouir. Amen.